Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Le texte de ce dimanche, dans l'Évangile de Luc, va nous parler de la difficulté à suivre Jésus. Cet événement est aussi raconté dans les évangiles de Matthieu et Jean, et je crois qu'il sera intéressant de pouvoir les comparer. Donc la première lecture se situe dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 51 à 62. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda. Et ils firent route vers un autre village. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je vais te suivre, Seigneur. Mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »
La deuxième lecture est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 19 à 22. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Un autre des disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Et enfin, la dernière lecture se situe dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude, qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Il ajouta, « C'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. »
On était deux amis, Jean et puis moi, André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé, il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé.
Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu. Un métier bien payé qui donne quand on est vieux. La bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Revenons maintenant au texte de l'évangile de Luc au chapitre 9. Y a-t-il une parole plus rude dans l'évangile? Un scribe bien disposé se fait congédier simplement et impoliment. Un fils qui vient de perdre son père voit son deuil profané, méprisé. Chez Luc au moins, le fils se voit-il proposer un projet exaltant, capable de triompher de sa tristesse, va annoncer le royaume de Dieu. Chez Matthieu et Jean, rien. Laisse les morts enterrer leurs morts. Point final. Cela tombe comme un couperet d'acier. Comment comprendre cette brutalité? Ne nous y trompons pas. Si ces deux hommes, le scribe puis le disciple, échouent si cruellement, cela ne vient pas d'eux. Ils n'ont rien fait qui puisse expliquer qu'on les repousse si durement. Non, cela ne vient pas d'eux, mais de lui. Cela vient de Jésus, et c'est cela qu'il faut chercher à comprendre.
La question n'est donc pas « que faire pour pouvoir suivre Jésus ?» mais dans l'autre sens, « qui est donc ce Jésus impossible ?» qui fait le vide derrière lui. Pourquoi se veut-il si douloureusement seul?
Écoutons le premier échange.
Un scribe lui dit « Maître ». C'est un premier espace de parole, entre un scribe et son maître, entre un élève et son professeur. C'est l'espace de l'enseignement théologique, de la doctrine. Et voilà le premier lieu, la doctrine, où le Fils de l'homme fait le vide derrière lui.
Le petit proverbe, en effet, comme tous les proverbes, dit plus qu'il ne dit. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des tabernacles. Le pasteur Louis Simon, qui a longuement étudié ce texte et inspiré notre méditation, a trouvé cette traduction étonnante pour nid, tabernacle. Les oiseaux du ciel donc ont des tabernacles, mais le Fils de l'homme, lui, n'a aucun lieu où poser sa tête.
Très vite, le vocabulaire a glissé vers l'étrange, car d'habitude, on dit « nid » pour les oiseaux. Mais ici, c'est le mot « tabernacle ». On joue sur l'idée d'un lieu saint, car un tabernacle, c'est un temple. C'est le lieu où Dieu, justement, peut poser sa tête. Et ceci s'accentue par l'arrivée du mot « ciel ». Au ciel, les oiseaux ont leur temple.
Des oiseaux dans leur temple, c'est drôle. Est-ce que le professeur se moquerait un peu de son élève? C'est que le scribe, c'est l'homme de la théologie, et donc des espaces sacrés, celui qui sait Dieu, qui sait où est Dieu. Au ciel, par exemple, comme les oiseaux, ou dans un tabernacle, ou dans la loi, ou dans les Écritures. Le scribe, c'est celui qui a mis de l'ordre dans le ciel.
Il sait où mettre Dieu, où mettre le Fils de l'homme. Et dans sa doctrine, c'est pareil. Il y a des chapitres pour loger tout ce beau monde. Côté oiseaux du ciel, bien sûr. Comme pour les oiseaux, précisément, la plupart du temps, cela s'échappe. On ne peut guère les avoir bien en main. Mais cela ne fait rien. Même envolé, un oiseau du ciel a son lieu. On sait où le ranger. Et même inaccessible, un Dieu céleste a son lieu, son tabernacle éternel.
Mais je ne crois pas que Jésus, ici, se rit du scribe si bien disposé à son égard. D'ailleurs, nous sommes tous des scribes. Je veux dire, nous avons tous mis de l'ordre dans notre ciel. Nous avons tous une idée de Dieu, une image de Dieu, et même une idée du lieu où il se trouve. Or, une idée de Dieu qui occupe aussi son lieu, c'est une idole.
Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse, j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis, tout penauds et confus, et que Jésus m'a dit, pars, tu ne pêches plus. Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, les rires des enfants, la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau. Ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, jamais.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, et les pauses musicales sont des chants de Noël Colombier. Je te suivrai où que tu ailles, dit le scribe. Il a l'air de connaître où, le lieu où se déploie et se déroule la vie du Fils de l'homme. Et il veut l'y rejoindre. Quel que soit ton lieu, je veux bien y venir. Mais Jésus lui dit, où est mon lieu? Qui peut me dire où je vais et vers quoi je marche?
Et Jésus marche bien sûr vers Jérusalem, vers son destin. Tout le monde a son lieu où retrouver son être. Même les renards savent qu'ils sont des renards. Ils peuvent se retrouver dans leur terrier. Non, Jésus ne se rit pas du scribe, mais découvre, met à nu, sa propre pauvreté de fils de l'homme, l'homme sans lieu. Qui peut me dire qui je suis, moi? Oui, que dit-on où que je suis? Où dit-on que je demeure? Je suis le vent qui souffle où il veut. Vous entendez ma voix? Mais nul, même pas moi, ne sait d'où vient le Fils, ni où va le vent de l'Esprit. Qui peut me dire mon lieu? Qui sait pour moi où est ma demeure?
Mon ami, je n'ai pas de lieu, ni pour moi, ni pour toi, ni pour t'y attendre. Mon ami, il me faut vivre sans feu ni lieu, jamais. De là peut-être cette sorte de brutalité dans la réponse. Car Jésus, comme nous bien sûr, aimerait tellement avoir un lieu, connaître son lieu et s'y arrêter, y attendre ses amis, et parfois s'y attendre un peu lui-même pour reprendre souffle.
C'est donc contre lui-même, contre ce désir si légitime de pouvoir un peu poser sa vie, pour la comprendre, un peu déposer sa tête ailleurs que sur la croix. Oui, c'est contre lui-même que Jésus se fâche et élève le ton. Non, pas de lieu où incliner sa tête avant Golgotha. Tel est le Fils de l'homme.
Et il doit se demander, Jésus, pourrais-je tenir encore longtemps sans repos, sans dépôt, sans pouvoir recueillir le sens et le sel de ma vie, disloqué, vivre sans lieu? Jusque à quand pourrais-je vivre dans cette pauvreté de désert, dans ce non-lieu de vie?
Oui, brutalité dans le ton, car Jésus se parle à lui-même. Il s'exhorte à tenir bon. Oui, il marchera ainsi, sans aucun lieu. Lui, oui, mais ses amis, non.
C'est vrai. Peut-on suivre ce Fils posé nulle part, n'habitant aucune image, ne déposant ses verbes dans aucune écriture? Comment vivre sans lieu?
Les renards ont des terriers, les oiseaux des nids, les religieux des temples et des prières, les scribes des écritures. Mais le Fils de l'homme, lui, n'a rien.
C'est le vent de Dieu et de ses verbes. Voilà pourquoi Jésus, derrière lui, fait le vide. Nul ne pourra le suivre jusque-là. Je te suivrai où que tu ailles. Mais dit le Fils de l'homme, justement, il n'y a plus de où.
Je suis chemin, rien que chemin, encore chemin. Je traverse et transgresse tous les lieux, sans halte ni repos. Comme dans l'auberge d'Emmaüs, les lieux où tu me trouves, c'est déjà le lieu d'où je pars et disparais. Comment rester derrière moi sans mourir? Première énigme du Fils de l'homme, Dieu sans feu ni lieu, cri sans phrase, vent de Dieu, prophète sans scribe, Fils de l'homme impossible.
Jésus dit en fait, je suis futur, je suis résurrection, je suis vie sans repos ni dépôt, toujours créatrice, toujours recréant, même ce qui fut à partir de rien, sans lieu pour m'arrêter. Oui, comment le suivre? Sans perdre souffle, sans perdre tout, sans perdre vie. Et voilà le second interlocuteur. Cette fois, il s'agit d'un disciple et de son Seigneur.
seconde occasion pour Jésus de se parler encore à lui-même en évoquant l'autre impossible exigence de la vie d'un fils de l'homme. Alors cette fois-ci, d'un coup, tombe la nuit. Laisse les morts enterrer leurs morts. Point final.
D'ailleurs, les ténèbres sont-elles maintenant autour du disciple désemparé, sans père, ni deuil, ni ensevelissement, que seul le Seigneur, enfin je veux dire celui qui a reçu ce titre dans la victoire de Pâques, seul lui peut continuer à marcher, à parler et à tenir.
Et voilà ce que j'entends Jésus se dire maintenant à lui-même en parlant aux disciples. Laisse les morts ensevelir ma mort. Et c'est déjà la détresse de la fin, noire comme une épouvante de Vendredi Saint. Laisse-les, oui, laisse-les. Non seulement je suis un cri sans phrase, déjà prête pour me recueillir, mais surtout un cri sans réponse, un appel sans écho, une supplique au Dieu qui semble muet.
Mon ami, je suis moi aussi un fils sans père et dont le père reste muet quand je hurle « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, laisse-les. C'est moi le fils sans père, comme toi et même plus que toi.
Tous les tombeaux sont vains et vides. Laisse, tu croyais que sur terre, tout fils a le droit d'ensevelir son père, mais moi, au bout de mon chemin, je serai un mort sans sépulture, enseveli ni par son père ni par ses fils. Laisse la nuit ensevelir ma mort. Je suis celui que nul n'ensevelit.
Sans lieu, j'étais l'impossible vivant. Et je suis encore et aussi à tout jamais l'impossible mort. Les deux paroles se sont donc maintenant nouées et désigne ensemble l'énigme du Fils de l'homme, celui qui est mon maître et mon Seigneur.
Énigme du Fils de l'homme, sa vie sans aucun lieu jamais, et donc toujours en forme de mort, et sa mort sans sépulture, et donc en forme éternelle de vie. Ô Fils de l'homme, comment vivre derrière toi ?
Ainsi, le scribe n'était pas congédié, et le disciple n'était pas rabroué. Seulement, Jésus, le Fils de l'homme, tenait à marcher devant eux pour assurer, lui, pour eux, cette vie qui est mort à soi-même, et ce Golgotha qui est vie éternelle.
Ami, laisse la nuit ensevelir ma vie et ta mort, ma mort et ta vie, et toi, entre dans le matin de mon espérance. Oui, suis-moi. C'est dimanche, suis-moi. Devant toi, il n'y a qu'espérance, rien qu'espérance. À mon tour de te dire, où que tu ailles, je te suivrai. Tu me trouveras toujours près de toi, où que tu sois, et qui que tu sois.
Il est minuit, docteur Schweitzer. Il est minuit, tu ne dors pas. Ta musique, comme une prière, chante et s'envole sous tes doigts pour se poser sur les souffrances. Douce et bonne comme la présence de celui qui t'a entraîné jusqu'ici à l'embarrainé. Il est minuit, mais toi tu veilles pour que le monde se réveille en écoutant du fond du cœur monter la chanson du veilleur.
Je suis sorti, Seigneur, Dehors, les hommes sortaient. Ils allaient, ils venaient, ils marchaient, ils couraient. Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, la rue courait, la ville courait, tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps. Tu comprends, Seigneur, ils n'ont pas le temps. L'enfant, il joue, il n'a pas le temps tout de suite, plus tard. L'écolier, il a ses devoirs à faire, il n'a pas le temps, plus tard. Le lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il n'a pas le temps, plus tard. Le jeune homme, il fait du sport, il n'a pas le temps, plus tard.
Le jeune marié, il a sa maison, il doit l'aménager, il n'a pas le temps, plus tard. Le père de famille, il a ses enfants, il n'a pas le temps, plus tard. Les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants, ils n'ont pas le temps, plus tard. Ils sont malades, ils ont leurs soins, ils n'ont pas le temps, plus tard. Ils sont mourants, ils n'ont... trop tard. Ils n'ont plus le temps. Ainsi, les hommes courent tous après le temps, Seigneur. Ils passent sur la terre en courant, pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés. Tu es hors du temps. Tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui, et tu sais ce que tu fais. Tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps aux hommes. Tu donnes à chacun le temps de faire ce que tu veux qu'il fasse.
Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Il est minuit et l'abbé Pierre, Vincent de Paul, Mère Teresa, quand tout n'est que mort et misère, relève un enfant dans leurs bras. Il est minuit quand on torture, quand on meurt de faim quelque part, quand une brutale dictature assassine même l'espoir. Il est minuit, mais parce qu'il veille, voilà que des gens se réveillent et qu'ils entendent au fond du cœur monter la chanson du veilleur. Thank you.